en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Jean-Jacques Haneau était l'invité de l'Académie des sciences morales et politiques le 4 février 2013. Il a prononcé une communication intitulée « Le cinéma français dans le monde » devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette séance. Le cinéaste Jean-Jacques Haneau est connu pour les films suivants « La Victoire » en chantant son premier film, oscarisé en 1976 comme meilleur film étranger. Il est également connu pour « La Guerre du Feu », pour « Au nom de la rose », pour « L'ours »,« L'amant », »,« Stalingrad », autant de titres que le public a accueillis avec succès. Et il est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2007, où il a été élu au fauteuil de Gérard Houry. Retrouvons-le en séance à l'Académie des sciences morales et politiques.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les perpétuels. Alors, effectivement, c'est un peu au débotté que je me présente devant vous. Mais, comme le faisait remarquer le Président, j'ai eu la chance de travailler énormément à l'étranger. J'ai passé plus de temps pendant les 30 dernières années en dehors de France. Je le regrette d'ailleurs pour ma présence à l'Académie. Vous avez cité tout à l'heure mon tout premier film, je l'avais tourné en Côte d'Ivoire. Il m'a valu effectivement à Hollywood l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui m'a valu une carrière hollywoodienne où je suis resté pendant 8 ans aux États-Unis. Précédemment, j'avais tourné La Guerre du Feu en Angleterre, au Kenya et au Canada. C'était une coproduction de ces différents pays. Ensuite, j'ai fait Le Nom de la Rose en Allemagne et en Italie. Puis L'Ours, que j'ai tourné avec mon camarade ici présent, en Autriche, au Canada et en Italie. Puis ensuite, c'est là où j'ai commencé mes 8 ans de vie hollywoodienne, où j'ai fait un film, le premier film en 3 dimensions, en couleur. C'est moi qui ai remis le procédé à la mode. J'ai travaillé au Canada et à Los Angeles. Ensuite, pardonnez-moi de vous aligner tout ça, mais j'ai fait 7 ans au Tibet. D'abord, je l'ai préparé en Inde. Je l'ai finalement tourné en Argentine pour échapper à la censure chinoise, qui était très fâchée contre moi. Ensuite, j'ai tourné en Allemagne un film sur la guerre russe qui s'appelle Stalingrad. Et après, j'ai tourné en Espagne un film qui s'appelle Sa Majesté Mineure. Et récemment, dans les pays du Golfe et en Tunisie, un film s'appelle Or Noir. Donc, si vous voulez, j'ai une vision très française, mais français de l'étranger. Et je m'en réjouis beaucoup car je ne me sens jamais aussi français que quand je suis français à l'étranger avec beaucoup de fierté. Alors pourquoi cette fierté ? D'abord dans mon métier, nous avons la chance d'être dans une industrie artistique qui a été créée en France. Je vous rappelle que c'est quand même une invention technologique de Louis Lumière qui a complètement, alors que lui croyait faire une petite boîte amusante pour montrer des photos animées, eh bien, son invention a révolutionné le monde. Et pour parler de la présence du cinéma français dans le monde, lui ainsi que Méliès et la société Pathé, profitant de cette invention française, sont devenus les montreurs d'images dans le monde entier. C'est-à-dire que jusqu'en 1900, puisque l'invention date de 1895, c'était la France qui régnait en maîtresse absolue. Pathé était la première société de cinéma au monde. Il avait un concurrent en Europe, c'était Gaumont. C'est-à-dire que, comme dans l'aviation, nous étions le pays inventeur et le pays qui avait créé. Avec en plus de ça un très grand intérêt, très vite, ce sont deux courants sont apparus, le courant documentaire des Frères Lumière. Et pendant longtemps, vous vous souvenez sans doute qu'il y avait les actualités Pathé. Eh bien, ces actualités Pathé, c'était dans le monde entier. C'est-à-dire que c'était un point de vue français qui arrivait dans le monde entier. Après, il y a eu comme concurrent Fox, mais nous étions deux nations à pouvoir nous exprimer sur les écrans du monde entier au niveau des informations, des news. C'était la France et les États-Unis. Et puis, il y a eu l'autre tendance, la tendance de Méliès, qui a pensé que cette invention technologique pouvait raconter des histoires. Et évidemment, nous avons eu tout de suite un grand concurrent, le concurrent américain, qui avait un marché plus grand que le nôtre et qui surtout avait un public qui, chez lui, était le public international. La force du cinéma américain, on l'oublie souvent, vient du fait que le cinéma américain s'adressait à une population qui ne parlait pas l'américain. Donc il fallait faire des histoires avec des images fortes qui racontent des histoires universelles à un public qui n'avait pas de racines américaines. Et c'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, par la force de cette population totalement multinationale, que les États-Unis ont toujours travaillé pour leur marché national sur des projets qui immédiatement deviennent internationaux. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, les représentations diplomatiques françaises s'honorent beaucoup de répéter que notre cinéma est le deuxième cinéma de l'Occident. C'est absolument vrai. pour tout un tas de raisons, nos concurrents européens, en particulier l'Italie qui avait un cinéma très brillant, l'Angleterre, pour l'autre raison que tous ces cinéastes se sont fait piquer par les majors américaines, l'Italie parce que Berlusconi, ayant acheté les chaînes de télévision, a acheté très bon marché des programmes américains et les gens ne sont plus allés au cinéma. Donc ces grandes cinématographies se sont effondrées. Et aujourd'hui, je vais vous faire une comparaison qui va vous donner tout à fait la proportion. Le cinéma américain représente à peu près 85% de la recette mondiale des salles de cinéma. 85%. Nous représentons 4%. Nous sommes la deuxième armée occidentale, juste derrière celle des États-Unis. Comme vous le savez, c'est pas la même proportion, mais effectivement, on est les deuxièmes, très loin derrière. Donc, ce qui se passe dans le monde, c'est que nous avons eu jusque dans les années 60-70 une cinématographie française populaire qui était immensément vigoureuse et célèbre, en particulier en Europe, mais même aussi aux États-Unis. Les États-Unis ont toujours été un peu à part, parce que les États-Unis ne s'intéressent qu'à eux, à la différence des autres peuples qui se sont énormément passionnés pour le cinéma français. Des stars comme Gabin ou comme De Funès, on en parle encore aujourd'hui. Plus près de nous, j'ai envie de dire, Belmondo et Delon ont été et sont toujours de très grandes stars. Aujourd'hui, la chose se nuance beaucoup. Cette année a été extrêmement bonne pour le cinéma français. Quand on dit extrêmement bonne, il y a eu de gros succès. Les Intouchables, c'était un gros succès. The Artist, aussi un gros succès. Faut modérer, évidemment, c'est-à-dire que ce sont des succès qui, par rapport au triomphe américain, sont de petits succès. Un film comme Avatar va faire 1 milliard de recettes, un film comme Intouchable en fait 100 millions, ce qui est beaucoup. Mais, si vous voulez, c'est 10%. Ce qui est 10% aussi, c'est le prix des films. Nous produisons 270 films par an, c'est-à-dire un par jour ouvrable. Les États-Unis en produisent deux fois moins, mais chaque film est 10 fois plus cher. Et comme le prix de la place est le même, les publics à travers le monde préfèrent souvent monter dans la limousine que dans la deux chevaux. Mais la deux chevaux a son charme et elle est l'alternative. Si bien que, j'ai envie de dire, la plupart des cinéastes du monde rêvent d'être français. Parce que en France, il y a un public qui aime le cinéma, il y a des metteurs en scène qui aiment le cinéma et qui cherchent à faire des films qui ne soient pas que des machines à faire de l'argent. Il y a un véritable respect des gens de cinéma, des producteurs de cinéma. Les producteurs de cinéma français ne sont pas des gens qui choisissent ce métier pour faire fortune. Autrement, ils vont dans d'autres disciplines. C'est par amour du cinéma, et ça, c'est une spécificité française. Notre public est un public formidable. Et du coup, beaucoup de cinéastes rêvent de notre modèle français. Alors, ce modèle français, il a aussi une spécificité. Il est aidé de manière intelligente, et depuis la Libération, donc on remonte aux années 40, par l'État, avec un organisme d'État qui s'appelle le Centre National du Cinéma, qu'on nous envie partout. Et mon ami et moi-même avons aidé le Cambodge, la Corée et peut-être bientôt la Mongolie, à se faire une industrie cinématographique calquée à leur demande sur le modèle français. Alors pourquoi c'est important ce modèle et qu'il donne une cinématographie extrêmement différente? C'est parce que une partie de l'investissement du cinéma vient d'un système très particulier, unique au monde. Chaque spectateur, quand vous allez au cinéma, vous laissez 10% de votre ticket à un fonds qui va être réparti chez les producteurs français. Alors, c'est pour ça que l'exception française, si vous voulez, est une curiosité commerciale. C'est que, en fait, c'est les succès du cinéma américain qui font vivre le cinéma français. Plus il y a de recettes américaines en France, plus ça donne d'argent au cinéma français. Et puis, il y a une autre loi qui est la loi des quotas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais entre Canal+ et les chaînes de télévision, on est obligé de passer des films nationaux. Dans quelle proportion, Xavier ?
En fin de compte, on est obligé de passer au moins 80% de films nationaux pour 20% de films étrangers.
Comme les spectateurs de télévision français aiment prioritairement les films américains, il faut donc passer beaucoup de films français à la télévision pour pouvoir passer les films américains qui font de la recette. Mais ça donne, si vous voulez, une diversité au cinéma français qui est absolument unique. Donc, lorsqu'on se retrouve, ce qui est mon cas fréquemment dans les représentations diplomatiques françaises, j'entends beaucoup les conseillers culturels dire « il n'y a que deux industries qui s'exportent en France, l'aéronautique et le cinéma ». Évidemment, pas dans les mêmes proportions. Et ce qui est la difficulté des cinémas hors cinéma américain, c'est que nous sommes généralement réduits à un circuit de distribution en voie de disparition, qui est le circuit de l'art et essai. Donc si vous voulez, pour répondre à la question, nous sommes perçus comme des gens artistiques qui présentons une alternative intelligente au cinéma de spectacle, mais malheureusement, à part quelques exemples qui sont évidemment montés en épingle par la presse, notre cinéma est relégué, quand il est en langue française, dans des petits circuits de salles d'art et essai qui aujourd'hui ferment toutes les unes après les autres. Il y avait un article dans le New York Times il y a un an qui s'appelait art movies, ou art theaters, c'est-à-dire les salles d'arrêt d'essai, deux points, a hair problem, un problème de cheveux. Et l'article expliquait que le public de ces salles-là était ou bien chauve ou bien blanc. Les publics, les jeunes publics, malheureusement, n'ont plus du tout la même cinéphilie que nous avons pu connaître, c'est-à-dire la cinéphilie des auteurs, tout ça a disparu, sauf dans les milieux culturels. Donc vous voyez, nous représentons l'alternative culturelle, souvent snob, urbaine, universitaire, par rapport au cinéma américain qui, lui, malheureusement, pour lui, et il le sait, plonge dans une mondialisation qui n'est pas favorable à l'expression et à la dynamique de leur cinéma. Alors, maintenant, je crois que ce serait bien que je réponde à vos questions, parce que je peux continuer comme ça en solo, mais je suis sûr que toute question est la bienvenue et je crois que ça animera le débat.
Très bien. Alors, quand on parle de cinéma, on demande la première question à Jean Tullard.
Merci, Monsieur le Président. J'avais une question qui ne touchait pas à la commission d'avance sur recettes du cinéma, à laquelle j'ai appartenu à ses débuts, et j'en ai été chassé ignominieusement par Françoise Giroud, ministre de la Culture. Pourquoi ? Parce que, dans cette commission d'avance sur recettes, il n'y avait que des films totalement incompréhensibles. Je me souviens d'un film que je cite, le réalisateur étant mort, Le théâtre des matières de Jean-Paul Biette, auquel je n'ai rien compris. Il y avait dans cette commission des gens qui ont faim de comprendre. Le film a fait 3 entrées. C'est ma première question, mais j'en ai une autre encore pour vous que je vous poserai peut-être après. Est-ce que vous-même, vous avez bénéficié de cette commission d'avance sur recette du cinéma?
Oui, cher Jean Tullard, j'ai bénéficié pour mon premier film. À l'époque, j'étais metteur en scène de films publicitaires, donc je ne connaissais rien au milieu du cinéma. Et alors, quelques-uns de mes techniciens m'ont dit « il faut que tu présentes l'avance sur recette, mais c'est que de la combine, il faut lécher le cul des membres. » Pardonnez-moi. Et je me souviens avoir commencé à faire une lettre de flatteur, et je me suis dit « non, ça je ne saurais pas faire », et je n'ai pas fait. Et néanmoins, j'ai obtenu l'avance maximum, sans rien faire, en envoyant mon scénario par la poste. Donc, si vous voulez, mon expérience à moi a été extrêmement aimable. Comme ce film avait eu du succès et l'Oscar, je me suis bien gardé depuis de poser ma candidature, pensant qu'il y avait des films qui en avaient plus besoin que moi. Mais je partage votre sentiment. Il y a eu en France une vague de fond très puissante qui établissait l'équation suivante. Le public est con. Donc, un film qui plaît au public est un film con. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée. J'avais été sollicité par la directrice de la FEMIS, l'institut qui remplace l'IDEC, qui est la grande école de cinéma française. Donc à la demande de Madame Juppé, qui était à l'époque la présidente, j'avais accepté de faire une semaine de conférence à la FEMIS. Lorsque je suis arrivé, il y avait tapissé partout des affiches et il y avait marqué « anneau égale succès égale danger ». Parce que, si vous voulez, j'ai très bien connu cette époque. Lorsque vous aviez un succès commercial, vous étiez immédiatement rangé dans la catégorie des débiles. Les metteurs en scène ont changé, le cinéma français a changé, mais nous avons perdu les marchés, en particulier, j'évoquais tout à l'heure, les marchés de l'Est, qui nous étaient extrêmement favorables. La Russie était un immense marché pour le cinéma français. La Pologne, qu'on appelait la Tchécoslovaquie, l'Italie, l'Espagne, tous ces marchés-là se sont découragés. Pour une raison très simple, c'est que les distributeurs qui ont acheté les films qui avaient été encouragés par l'avance sur recette ont fait faillite. Et ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas les films. Ils ont essayé le mieux possible de les vendre, ils ne se vendaient plus. Et je me souviendrai toujours, lorsque je montais La guerre du feu à Hollywood, d'un petit dessin dans le New Yorker où on voyait un type qui essayait de convaincre sa petite amie d'aller voir un film français. Et le sous-titre, c'était « La meilleure façon de perdre sa fiancée ». J'ai malheureusement vécu ça d'une manière personnellement assez douloureuse. C'est aussi pour ça que j'ai fait la plupart de mes films en langue anglaise et que le prochain, je le fais en langue chinoise. Alors là, une chose qui est blessante, c'est que le fait qu'un film soit en français, vu qu'il y a une disparition de l'aura française considérable et une catastrophe économique qui fait qu'il n'y a plus d'emploi pour les jeunes gens qui apprennent le français, les gens se tournent vers d'autres langues, donc n'ont plus envie d'aller voir des films en français. Or, comme ces films en français sont diffusés dans un nombre restreint de salles, ils sont sous-titrés, et que les gens ne lisent plus assez vite dans tous les pays du monde pour lire les sous-titres. Donc aujourd'hui, seuls les films qui vont être en doublage, c'est-à-dire être doublés en langue étrangère, ont une chance de passer dans les grands circuits. C'est un cercle vicieux. Et troisième inconvénient majeur, aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir un film si vous ne passez pas à la télévision dans les émissions prime time. Eh bien, si vous ne parlez pas l'anglais couramment, on ne vous prendra pas dans ces émissions prime time. D'abord, parce que si on est obligé de vous traduire, ça fait perdre du temps d'antenne, donc les gens décrochent, et que la plupart du temps, dans les pays un peu pointus, on ne trouve pas de traducteur français qui soit capable de faire de la traduction simultanée. Donc, si vous voulez, tout ça participe au déclin du cinéma français.
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas subventionner le doublage des films ?
C'est fait. On subventionne le doublage des films, bien sûr. Il y a une commission ad hoc, mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'elle connaît les mêmes problèmes que celles qui étaient décrites par M. Tullard.
Alors je voudrais dire, si vous me permettez, M. le Président, je voudrais ajouter deux choses. D'une part, c'est que les films subventionnés par la commission d'avance sur recettes n'ont plus besoin de sortir. Ils sont déjà couverts. Donc, ils n'ont plus besoin de paraître sur le marché. Ce qui fait que, pendant longtemps, pendant mon passage de cette commission, j'ai régné sur un véritable cimetière du cinéma. Les films ne sortaient pas. Mais je voudrais ajouter quand même une chose pour défendre cette institution. Elle ne coûte rien aux contribuables français. C'est, comme l'a très bien dit notre éminent confrère, ce sont les 10% prélevés sur les recettes qui l'alimentent, ce ne sont pas les impôts que vous payez.
Et dans ces 10%, cette manne financière est telle d'ailleurs que l'État, pour la première fois de son existence, a pris, je crois, 20% de la cagnotte du cinéma pour la mettre dans le régime général, ce qui est tout à fait illégal d'ailleurs. Et l'avance sur recettes est un épiphénomène de la redistribution automatique. En fait, en fonction des entrées faites par les films français, le plus gros de cet argent est réparti de manière automatique. La commission d'avance est destinée à aider les films difficiles ou les films de jeunes auteurs. Ça a été mon cas. Et dans mon cas, je remercie l'avance sur recette de m'avoir aidé. Et c'est un système qui a le défaut, évidemment, d'être constitué en chapelle avec des gens qui, à cette époque-là, avaient un goût de cinéma qui n'était pas celui du grand nombre.
Mais alors, avant de donner la parole à d'autres de nos confrères, moi, je voudrais leur poser une question. Vous dites, dans le fond, que vous sentez, vous êtes un Français à l'étranger, vous faites la plupart de vos films à l'étranger, que vous vous sentez très français, et les Chinois vous demandent de faire un film chinois. Dans le fond, qu'est-ce qui, dans ce film chinois, en chinois, sur un chinois, qu'est-ce qui va être français? Quel est le type de regard, le type de sensibilité? Est-ce que vous pouvez le décrire? Je sais que c'est probablement très subtil, très insaisissable, mais est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu votre impression?
Mais vous savez, c'est comme un peintre français qui va peindre Venise. C'est lui qui peint, mais c'est Venise selon son œil. Je vais répondre par une question. Lorsque mon éminent confrère Bertolucci fait Le Dernier Empereur, c'est un sujet chinois, c'est une production anglaise tournée en Chine par un Italien. Quelle est la nationalité du capitaine ? On s'en fiche. C'est un film de Bertolucci sur la Chine. Donc si vous voulez, il y a dans l'écriture cinématographique la même trace que n'importe quel romancier qui va raconter une histoire sur un autre pays, éventuellement dans une autre langue. Nous avons d'excellents exemples en France d'écrivains chinois ou d'écrivains de langue maternelle arabe qui font d'admirables livres dans notre langue. C'est la même approche.
François Dorsivan.
Merci, Monsieur le Président. Merci, chers confrères. Quand on regarde les résultats annuels que publie Unifrance, et que vous avez rappelé, 270 films français, ce qui est très très important, première surprise, sur ces 270, il y en a trois, en gros, qui non seulement obtiennent les records que vous avez dit, mais qui gagnent vraiment de l'argent. Et donc, cette première question serait, mais est-ce que ce système que vous avez décrit, qui a permis sans doute le développement et le sauvetage du cinéma français, de l'industrie du cinéma français, n'a pas son aspect pervers en n'éliminant pas les films qui n'ont aucun public? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est que malgré l'existence de ce système que vous avez si bien décrit et des échanges qui se sont produits, malgré cela, on se rappelle qu'au milieu des années 80, il n'y a pas si longtemps que ça, le cinéma français était au bord, lui aussi, de la disparition, comme l'italien, l'allemand ou l'anglais. Et qu'il a fallu ajouter un deuxième système, si ce n'est un complément du premier, avec les sociétés d'investissement dans le cinéma français, exonérées fiscalement pour leurs investissements dans le cinéma. Donc, ces deux questions. Est-ce qu'il y a un aspect pervers dans le système? Et deuxièmement, il s'est révélé lui-même insuffisant pour sauver notre industrie. Merci.
Alors, plusieurs remarques. D'abord, d'une manière générale, que ce soit dans les industries ou dans les arts ou dans les espèces animales, tout ce qui est assisté produit des effets pervers. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'il y a une masse considérable de films qui encore aujourd'hui font des entrées misérables, mais ça n'a pas d'importance puisqu'ils sont effectivement prévendus et déjà financièrement rentables d'une certaine manière, même s'ils coûtent à la société. Une chose que je voudrais vous faire remarquer et que je ne cesse de dire à mes amis qui veulent investir dans le cinéma, dans tous les pays du monde, seulement un film sur 10 se rembourse. Et seulement un film sur 100 fait des recettes brillantes. Partout dans le monde, 1 sur 10. Et je vous raconte une anecdote. Lorsque Sony, la grosse compagnie japonaise, a souhaité acquérir Columbia et TriStar, deux majors américaines, c'est des amis à moi qui étaient les présidents. Ils vont voir les Japonais, et les Japonais, ils leur disent ça. Ils leur disent, attention, on vous prévient, c'est la règle du métier. Et les Japonais hochent la tête et disent, oui, mais nous, notre stratégie, sur les 10 films, faire seulement celui qui marche. Donc, si vous voulez, nous sommes dans une industrie de prototypes. On ne peut pas dire dans n'importe quelle industrie. Quand vous faites un prototype, il y a de grandes chances qu'il soit en panne comme le Dreamliner de chez Boeing. Parce que c'est nouveau. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Donc, un film qui est réussi, c'est l'exception. Et un film réussi qui marche, c'est l'exception. Alors maintenant, que cette exception exceptionnelle soit aggravée par les différentes couches de protection, certes, il y a la couche que nous avons dite de l'avance sur recette et de la redistribution de cette recette, il y a les incitations fiscales, et il y a pire, il y a les quotas. C'est-à-dire que vous êtes tenu de passer 60% ou 70% de films de nationalité française afin de passer les 20%. Alors évidemment, c'est une protection d'un autre âge. Il est vrai aussi que s'il n'y avait pas eu ces protections-là, nous serions dans l'état des cinémas très faibles que sont les cinémas que vous avez cités. Donc, si vous voulez, il y a forcément, oui, un effet pervers dont se plaignent les professionnels. Et vous avez entendu sûrement beaucoup, beaucoup de débats à l'heure actuelle sur ce phénomène. Mais c'est un phénomène très, très fragile. Et lorsque ce système a été imposé en Corée, et franchement, j'étais aux avant-postes, on m'a demandé comment on avait fait en France. Et bien, ils ont fait pareil en Corée. Le cinéma coréen marche brillamment.
Henri Souto.
Monsieur le Président, je vous remercie. Ma première question, votre échange, cher confrère, avec Monsieur Dorcival, y répond. Le système d'aide à la production que vous avez rappelé et décrit est un facteur essentiel qui permet de mieux comprendre pourquoi le cinéma français n'a pas vécu ce qu'ont vécu les autres. Donc, je n'en reviens pas là-dessus. Je me demandais si c'était bien ça, mais effectivement, c'est une raison essentielle. Alors, deuxième raison, vous avez dit, si je vous ai bien compris, au passage, que le cinéma français populaire, entre guillemets, avait eu du succès dans les pays de l'Est. Alors ça c'est tout à fait exact, mais je pense pour deux raisons qui peut être utile de distinguer pour bien comprendre, qui se sont conjuguées mais qui n'étaient pas les mêmes. D'une part, à l'époque du communisme de glorieuse mémoire, tout ça c'était des accords intergouvernementaux et les soviétiques préféraient acheter des films aux Français qu'aux Américains. Donc ça jouait, s'ils n'étaient pas projetés, ils n'étaient pas projetés, point. En même temps, d'après tous les témoignages qu'ont les soviétologues, les spécialistes de ces pays, ces films, même dans le circuit unique et officiel, rencontraient effectivement un succès réel. Vous nous avez dit, le deuxième point qui aboutit à ma question, que le cinéma français, entre guillemets, populaire, c'est une expression rapide, mais enfin bon, trop simple, paraît au niveau mondial rencontrer relativement moins de succès. Est-ce que vous avez, sur ce point qui est quand même très intéressant à bien des points de vue, une explication, une série d'explications?
Oh oui, alors l'explication, vous savez, je ne veux pas taper à bras raccourcis sur ce qu'on a appelé la nouvelle vague qui a duré 50 ans, qui n'en a pas fini d'être nouvelle. Ce qui s'est passé, pour des raisons technologiques, soudain est apparu sur le marché une caméra légère, portable à l'épaule, et un film de grande sensibilité qui permettait de tourner en éclairage naturel. Des jeunes cinéastes s'en sont emparés, comme aujourd'hui ils se sont emparés des caméras HD, et ont fait des histoires qui sortaient de leur cœur, un peu improvisées, puisque ça coûtait pas cher, on pouvait risquer le coup, et qui ont fait de grands succès. Et d'un seul coup, pour mes grands succès étant À bout de souffle de Godard, cette voie a été perçue par l'intelligentsia française comme la solution. Il fallait faire confiance à ces techniques-là, aux jeunes, et du coup, le cinéma de studio, le cinéma de papa, avec des grues, des acteurs maquillés, des éclairages, tout ça a semblé ringard. Des gens comme Carnet ont été mis au rancard, des gens comme Clément ont disparu, Duvivier, tous ces gens-là ont été regardés comme d'abominables crétins. Et moi, c'était à l'époque où j'étais à l'école de cinéma. Et je dois dire que j'étais déjà en réaction par rapport à la nouvelle vague. Je me disais, mais non, les films de Feder, La Kermesse héroïque, c'est merveilleux. Les films de Jean Renoir, La Grande Illusion, La Règle du Jeu, c'est des films extraordinaires. Et, si vous voulez, la mode a été de faire des films improvisés. Chaque cinéaste était Rimbaud. Chaque cinéaste arrive sur le plateau, il ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, il est comme ça dans un grand état d'intensité. Il change d'avis, c'est plus l'acteur qui va jouer, c'est l'actrice, et puis un chameau. Je connais même quelqu'un qui a été filmé le désert pendant la nuit, sans éclairage. Ils ont travaillé pendant 3 semaines, toutes les nuits, et ils n'ont jamais arrêté la pellicule. Et ils ont développé, c'était noir, il y a des gens qui sont allés au cinéma voir le film. Donc, si vous voulez, c'est un phénomène de mode. Pendant ce temps-là, les habitués du cinéma continuaient à aller voir des films français.
et voyait des choses qui les laissaient extrêmement perplexes. Un peu comme M. Tullard, à la sortie de ses réunions, se disait « qu'est-ce que c'est que j'ai vu ?» Donc ils se sont pris au début pour des crétins, eux-mêmes, en disant « j'ai pas compris parce que je suis bête », et puis on finit par délaisser les films français. Pendant ce temps-là, les studios, eux, ont fermé boutique. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait des studios à Joinville, des studios à Saint-Maurice, des studios à Épinay, des studios à Boulogne, des studios à Billancourt. Mais j'étais le dernier, moi, à travailler là-dedans. Les gens ne savaient plus faire ce cinéma-là. Ils ne savaient plus construire de décors. Les chefs décorateurs, les grands chefs décorateurs qui faisaient des villes entières, comme on voit dans les films de cette époque-là, comme Merson qui faisait les films de René Clair, ils sont devenus décorateurs de boutique. Les chefs costumiers, ils sont allés faire de la mode, mais ils ont perdu leur spécialité. Aujourd'hui, il y a un retour de ça grâce au numérique, mais malheureusement, il y a des incitations, j'aurais dû le citer pour la question précédente. Le cinéma est un miroir aux alouettes, mais c'est aussi un moyen de véhiculer de la culture et du prestige. Beaucoup d'États l'ont compris, et aujourd'hui, il y a une concurrence inouïe, immense, entre les différents États du monde sur les incitations fiscales. Aujourd'hui, c'est la Belgique qui donne combien, Xavier ?
La Belgique donne à peu près 50% de tout ce qu'on dépense sur place.
Donc, vous économisez 50%. Lorsque le Premier ministre français, à l'occasion d'une visite à l'étranger, d'ailleurs en Chine, m'avait dit « Ah, mais on va se battre avec ça parce qu'on a une réduction de 20%, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, car je revenais, moi, du Nouveau-Mexique pour tourner un film qui se passait au Pakistan. Le Nouveau-Mexique propose 68% de rabais. C'est-à-dire que vous arrivez avec 100, vous dépensez les 100, on vous redonne 68. C'est irrésistible. La Colombie-Britannique fait ça. L'État de Louisiane fait ça. Donc, si vous voulez, ce métier est un métier artificiel parce que beaucoup d'investisseurs privés ou publics veulent avoir des stars à table, veulent montrer des stars dans leur État et sont prêts à perdre beaucoup d'argent pour faire vivre notre industrie.
Merci beaucoup. À mon tour, je voulais remercier Jean-Jacques Hano de nous faire cette présentation et de lui donner un caractère très passionné et de créer ce dialogue très vivant. Je voulais le rassurer, ou je ne sais pas si ça rassurera lui-même et Jean Tullard, à propos du divorce entre les experts et le public. Je n'ai pas une spécialité du cinéma. C'est même plutôt pire dans le domaine des arts visuels, de la création, dans le domaine des arts plastiques, où de fait, il y a un choix fait par des experts qui ne correspond nullement au goût du public et qui fait un très grand déchet des aides publiques, il faut bien le dire. Ma question est double, elle tourne autour de la question de la diffusion. On a parlé du Centre national du cinéma et de l'image animée, puisque ça s'appelle comme ça, je crois, en ceci qu'il est souvent à la source par des aides à la création, mais il y a aussi, dépendant de lui, un dispositif qui s'appelle Unifrance, et qui contribue donc à aider le cinéma français à être diffusé. Alors, ma première question est celle-ci, est-ce que vous en êtes servi ? Est-ce que c'est utile ? Quelles connaissances avez-vous de ce dispositif ? Est-ce que c'est une invention utile ? Que pourriez-vous nous en dire ? Et puis, la deuxième question, sur la diffusion, ce qui quand même saute aux yeux aujourd'hui, pour les gens qui ne sont pas experts de la diffusion du cinéma, c'est l'éruption du DVD, des dispositifs d'accession assez rapide après l'apparition du film sous forme de DVD, avec toutes les conséquences que ça a par ailleurs, qui est le téléchargement, le piratage, les ventes de disques qui ont été refaites. Lorsqu'on est, par exemple, sur un marché au Maroc, à Marrakech, pour avoir à peu près tous les films qui sont sortis, pour 1 euro. Alors, je voulais savoir si ces problèmes de diffusion, dans leur aspect institutionnel, comme dans leur aspect délictuel, vous avez à en connaître, et comment vous pourriez vous exprimer sur cet aspect-là.
Écoutez, je connais très bien Unifrance Film, on m'a d'ailleurs proposé de nombreuses fois d'assurer la présidence. Unifrance Film, c'est un petit peu comme une chambre de commerce. C'est-à-dire qu'ils font des cocktails à la sortie des films pour aider les films. Moi, je me souviens d'un cocktail à Barcelone où il y avait à l'époque une antenne d'Unifrance Film. Non, c'était Madrid, pardon. Pour la guerre du feu, il y avait dans des godets en plastique un vin blanc de mauvaise qualité et quelques tranches de saucisson sur un bout de pain sec. Mais ceci étant, des fois, c'est un peu plus prestigieux. Unifrance Film organise parfois des festivals comme celui de Sarasota où allaient essentiellement les Français résidant en Floride. J'ai été, moi, dans un certain nombre de manifestations d'Unifrance, dont certaines à Moscou, qui étaient, elles, plutôt bien reçues. C'est des gens qui se donnent du mal et cette organisation, elle est utile. Il y avait une très bonne antenne à New York. D'ailleurs, la femme qui était responsable de cette antenne a épousé l'ambassadeur. Il ne s'est pas trompé, elle était très active, elle était jolie en plus. Et elle obtenait des papiers admirables dans la presse new-yorkaise. Et la présence du cinéma français à New York, exception confirmant la règle, était beaucoup due au travail de fond de cette personne. Donc, si vous voulez, elle était très amie avec François Truffaut aussi, et qu'elle a beaucoup aidé François Truffaut. Donc voilà, la deuxième question. Le DVD est en chute libre.
Le DVD, c'est pas le problème. Le DVD a été une magnifique deuxième vie pour le cinéma. Sauf que le DVD est absolument tué. Vous avez tous vu que Virgin fermait, que la Fnac était en très grande difficulté, que les bacs où il y avait des DVD dans les supermarchés sont en train de se réduire. Pourquoi ? Parce que il est de bon ton de dire que tout le monde est libre de prendre tout ce qu'il y a gratuitement et que vous avez aujourd'hui une boutique où il y a des films payants et la même boutique gratuite, vous avez le même film. Nous avons l'inconvénient d'être dans une industrie qui est transportable par le réseau. Ceux qui font de l'architecture n'ont pas ce problème. Pour l'instant, les immeubles ne sont pas transportables par Internet. Mais nous, c'est une calamité. Dans mon cas précis, c'est 60% de la recette de mes producteurs qui disparaît. 60%. C'est-à-dire je suis obligé de faire aujourd'hui, je me plains pas parce que je fais encore des films avec des moyens, mais je fais obligatoirement dans le monde des films à 40% de leur budget. Avec une conséquence très dommageable, c'est que les films sont donc, pour qu'ils se remboursent, doivent être remboursés très très vite avant qu'on ne les pirate. Il faut les rembourser très vite dans le monde entier. Donc, du coup, faire des films pour les gens disponibles dans le monde entier le même jour, c'est-à-dire les jeunes gens. Et que le cinéma qui véhicule du fond est en perte de vitesse, car il ne peut plus être financé pour cette raison-là. Et les adultes aujourd'hui sont tenus de voir les films qui sont validés par leurs adolescents. Vous savez, le monde change, j'en suis tout à fait content. Mais pendant longtemps, le cinéma a filmé du théâtre. Et puis, il y a eu une seconde époque où le cinéma a filmé de la télévision. Et maintenant, eh bien, on filme des jeux vidéo. En grand. C'est ça qui marche. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études sur ce sujet. Un film, aujourd'hui, qui a une chance de marcher, c'est un grand jeu vidéo en trois dimensions qu'on voit avec les copains dans une grande salle avec des lunettes. En tout cas, ça vaut essentiellement pour les pays d'Asie. Mais enfin, si vous voulez, le phénomène est là. Et du coup, il y a une transformation considérable de la matière cinématographique, à la différence de la France, qui, elle, grâce à ou à cause de ces systèmes, permet encore d'espérer faire des films qui ne soient pas destinés à ce public-là, mais à une élite que l'on va chercher dans des niches dans les villes du monde.
Merci, mon cher confrère, pour votre exposé. Mais je voudrais revenir sur le système économique du cinéma français. Ça a été en partie inventé par un inspecteur des finances qui s'appelait Guy de Carmois et qui avait accompagné Blum dans la mission, dans l'accord 46, je crois, aux États-Unis, les accords Blum-Barnes. Mais quand on y réfléchit économiquement, c'est un tout à fait étrange système parce que c'est un système de financement d'une corporation par l'impôt. Parce que mon confrère Tullard me permettra d'être en désaccord avec lui, tout repose sur des impôts non consentis par le contribuable et non vérifiés annuellement par le Parlement. L'avance sur recette, c'est une taxe que je paye quand je vais voir. Hier, je suis allé voir le film sur Ben Laden. J'ai donc payé 10% sans que mes représentants aient donné leur accord au Parlement. Et c'est reversé à une corporation auquel s'ajoute la taxation des compagnies de télévision, puisqu'on leur prend les niches fiscales concernant le cinéma, et enfin un pan énorme qui est le financement par les régimes sociaux des intermittents du spectacle, qui fournissent une grande partie de cette corporation. Donc il y a une gigantesque corporation d'environ 300 à 400 000 personnes en France, intégralement subventionnée par l'impôt. Moi je n'ai rien contre, je constate simplement que la France refuse les droits d'inscription dans les universités, qui sont également une taxe parafiscale, mais là évidemment il s'agit de financer les universités ou la science, ce qui est négligeable en France comparé aux admirables produits du cinéma français. Et ce système, je veux bien qu'on le finance, mais premièrement, où est le contrôle parlementaire sur cette taxation ? Le contrôle régulier. Deuxièmement, où est le contrôle du produit ? Parce que dans le cinéma américain, les films sont jugés par le public. Donc il y a un contrôle de la production par la demande. C'est le règne du marché. Là, il n'y a pas de contrôle de la production par la demande. Donc, quelles sont les finalités recherchées ? Et qui vérifie que les finalités ont bien été respectées ou obtenues ? Est-ce que c'est une finalité artistique ? Autrement dit, est-ce que des œuvres d'art extrêmement importantes ont été produites grâce à ce système qui justifie incontestablement la subvention des artistes a toujours été a permis de très grandes œuvres d'art et donc je n'ai rien contre. Mais est-ce qu'il y a un vrai contrôle artistique ? Est-ce qu'il y a un contrôle de la qualité culturelle au sens de la défense de la langue, la défense de la civilisation, la défense des valeurs valeurs françaises. C'est très frappant, d'ailleurs, quand on regarde le cinéma américain, d'étudier politiquement le cinéma américain sur 60 ou 70 ans et de voir le rôle considérable du cinéma américain dans la constitution du système de valeurs américain, du patriotisme américain, de la politique étrangère américaine. Quand on regarde le cinéma français, je ne suis pas tout à fait convaincu que l'argent public, l'argent des contribuables, soit au service des finalités politiques de la France. Donc, qui exerce le contrôle, ou est-ce? Parce que s'il n'y a pas de contrôle sur les finalités, ça veut tout simplement dire qu'une corporation est devenue assez puissante en France pour se financer par un système de pression et que la culture a succédé à l'agriculture avec comme point commun le navet.
Écoutez, je dois dire que votre exposé est tout à fait brillant et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a absolument aucun contrôle. Il y a seulement le contrôle d'une élite, ce qu'eux-mêmes s'appellent élite, d'un petit nombre, d'une espèce d'oligocratie qui protège et qui est très organisée, très vigoureuse. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, le point du patriotisme est intéressant. Il n'est pas dicté par les studios. En revanche, si vous voulez, les Américains ont une très grande fierté. Un film qui montre l'Amérique qui perd n'a aucune chance de réussir. En France, beaucoup de gens ont envie de partir de France, donc vous montrez la France qui perd, les gens sont contents, ils pensent qu'ils ont raison de vouloir partir. Donc si vous voulez, nous sommes dans des situations extrêmement différentes qui me choquent à chaque fois que je change de côté de l'Atlantique. D'ailleurs, le patriotisme américain est en train d'en prendre un sérieux coup et c'est pour ça que beaucoup de films américains aujourd'hui montrent un côté beaucoup moins enviable de l'Amérique et connaissent le succès. Les films de Bigelow, le film Argo en sont des exemples aujourd'hui, où vous avez une sérieuse critique de la société américaine et qui est acceptée par le public américain. Mais la désespérance française enracinée dans notre cinéma depuis très très longtemps, elle vient de, si vous voulez, d'une tendance lourde de la société depuis les années 50, où la perte des colonies, la perte de la langue a été très mal vécue par les Français. Et du coup, c'est pas pour ça que les gens vont voir ces films, mais ils sont appréciés par ceux qui participent de ce mouvement. Mais autrement, écoutez, je dois dire, oui, bien entendu, le cinéma que je fais n'est pas financé par ces systèmes. Mon prochain film est essentiel à 70%, vous avez financé par la Chine, 75%. Mais il n'est pas exclu que je bénéficie d'une loi de défiscalisation. Alors, je ne saurais pas vous expliquer, mon ami est plus fort que moi. Pour la coproduction française, effectivement, il y a un système français qui aide les PME. Et plusieurs sociétés se sont créées pour aider des PME de cinéma. Et donc, ces gens-là nous ont approchés pour investir dans mon film. Mais d'une manière générale, mes films ont été produits en dehors de tout ce système de quotas. Et je suis heureux d'ailleurs d'apporter moi du travail et de l'argent en France sur des productions qui sont financées par l'étranger.
Oui, ceci dit, ce système a un coût. Je ne suis pas sûr que le contrôle des mécanismes puisse améliorer beaucoup la situation. On peut peut-être gagner un peu d'argent sur les intermittents du spectacle sans tuer le cinéma français. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut un cinéma français qui vive compte tenu des conditions économiques de la France, du français, etc., il est probable qu'il faut que ça coûte quelque chose, alors... Qu'est-ce qui est acceptable? Je ne sais pas ce que ça coûte d'ailleurs globalement. Je ne sais pas si vous avez un chiffre sur le coût global du soutien au cinéma français sous ses différentes formes, en milliards d'euros ou etc.
Ah, non, je n'ai pas de coût exact.
Bon, alors évidemment, ça serait un peu une discussion difficile à avoir, de savoir si ça vaut le coup ou pas, mais...
Je peux vous dire, la télévision apporte un tiers du financement des films. J'ai envie de dire un tiers obligatoire. On est dans une situation de mécénat de prince, de mécénat d'État obligatoire. C'est un peu ce système que vous décrivez, et où il n'y a pas de contrôle, même pas du prince. Ceci étant, moi j'ai participé à certaines opérations, je vais dire quoi d'ailleurs, la très grande bibliothèque. Eh bien, j'étais au jury, je me suis insurgé en trouvant les projets nuls. J'ai dit qu'il fallait pas mettre l'argent des contribuables dans un projet aussi nul. On m'a dit, il faut que le président inaugure. Il faut que Mitterrand inaugure. Bon, ben alors les autres, ils ont voté pour un projet qu'on nous a présenté transparent. Et j'ai dit, où on met les livres? Ben là, dans la vitrine. Ah bon, ben c'est plus transparent alors. Puis on met des livres dans une serre. Oui. Ben, comment on fait? Ça va chauffer? Ben, on va mettre des rideaux. Ah, donc ça sera plus transparent. Non, mais ça fait rien, faut y aller. Donc, si vous voulez, l'argent de l'État, à la limite, je préfère qu'il soit dans 200 films qui soient pas vus, qu'une bibliothèque qui va rester des années à pourrir les livres qui sont derrière les vitrines. Enfin bon. Vous savez, je crois que cette honorable maison, elle aussi, elle vient de là. Nous sommes les descendants d'un privilège royal. Et je crois que c'est très dans la tête des Français et que ça ne semble pas anormal, je crois, au public français de contribuer à la survie d'une industrie qui, au bout du compte, tout de même ramène du prestige.
Bernard Espagna.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais soulever, en liaison avec ce qui, grosso modo, vient d'être dit, c'est-à-dire quand même un certain rapport qu'on cherche en tout cas et qu'on trouve entre le cinéma français et la notion de qualité. En liaison avec ça, je voudrais soulever une question socialement incorrecte et donc un peu tabou, mais qui me tient à cœur depuis longtemps et c'est vraiment le moment pour moi où je vais mettre de la poser. C'est la question tout simplement de la violence au cinéma et à la télévision. C'est quelque chose, j'ai entendu des gens de grande qualité intellectuelle, de sensibilité, etc., me dire ce n'est pas un problème. Vous voyez, Shakespeare aussi était violent. Et ça n'empêche que Shakespeare était Shakespeare et qu'il a fait des chefs-d'œuvre que tout le monde reconnaît comme tels. Mais peut-être que Shakespeare lui-même a un peu abusé et ses pièces les plus violentes ne sont pas nécessairement les plus belles et celles qu'on a le plus de plaisir à relire. En tout cas, cette idée que montrer la violence pourrait être une espèce de catharsis qui finalement empêcherait les gens de passer à l'acte, c'est une idée qui a été répandue aussi par des gens compétents et intelligents. Néanmoins, je crois que dans l'ensemble, ces gens-là ne font pas bonne route. Si je regarde des films que j'ai vraiment aimés, appréciés, il y a de la violence dedans, mais ce n'est pas le point essentiel. La guerre du feu, par exemple, il y a de la violence, mais ça passe par... C'est un élément essentiel, mais ce n'est pas l'essentiel. Alors que dans la plupart des films qu'on voit à la télévision, on a l'impression que le réalisateur, ne sachant plus quoi faire, dit « Ah ben, on va montrer un revolver pointé sur le spectateur parce que ça, les gens aiment ». Et effectivement, ça marche comme ça. Et ce que vous me dites là, ce que vous venez de nous dire, que 80% de ces films qui passent à la télévision sont des films français, me désole parce que, précisément, toute cette masse de films qui passent à la télévision est pratiquement comme ça. Il y a des exceptions, mais elles sont rarissimes. Donc, ça m'inquiète un peu. Mais de toute façon, il me semble que la question est là. Je reprends cet exemple de la guerre du feu parce que j'ai encore à l'esprit. Ce genre de film-là, c'est ça qu'il faudrait favoriser, c'est ça qu'il faudrait encourager. Ce sont des films qui ont du succès et ce sont des films qui ne sont pas axés sur la notion de revolver, de revolver, de revolver. Vous parliez tout à l'heure des films de Jean Renoir, ben c'est la même chose. Ils ne sont pas non plus axés sur cette passion de la violence, de l'assassinat, du sang, du revolver, etc. Est-ce qu'il y a une solution au problème que je pose ?
Je réponds rapidement, puisque ce n'est pas tout à fait le sujet du cinéma français. Le cinéma français étant généralement beaucoup moins violent que le cinéma américain. Je vais vous citer quelque chose d'assez amusant. J'en ai eu l'expérience avec mon film « L'amant », qui a failli ne pas passer aux États-Unis parce que j'y montrais un rapport amoureux. Un rapport charnel, mais soutenu par une passion intellectuelle. C'était inacceptable pour les Américains. Dans le cinéma américain, vous pouvez montrer autant de meurtres et de têtes qui explosent et de têtes que l'on écrase qu'il est souhaité. En revanche, il y a une chose qui est très mal perçu par la sensibilité américaine, c'est de voir la pointe d'un sein. Vous ne pouvez donc voir la pointe d'un sein que si le sein est détaché du corps. C'est-à-dire qu'après un combat au sabre, le sein tombe, là vous pouvez montrer la pointe. Donc si vous voulez, au Japon, ce qui est considéré comme véritablement dangereux pour la société, c'est de montrer le système pileux. Alors dans ce même film « L'amant », j'avais ma jeune fille qui traversait l'écran avec des poudres, enfin bon, on floute. Alors, si vous voulez, dans la société américaine, comme vous le voyez, a été fondée sur la conquête physique armée. C'est l'amendement de la Constitution. Chaque citoyen a le droit, quasiment le devoir, d'avoir une arme chez soi. Donc, les fondements de la culture américaine sont faits sur l'usage de la violence et du meurtre. Et que, comme ce cinéma est devenu très populaire, il est devenu la norme. C'est-à-dire que, je me souviens, sur la guerre du feu, mon producteur, qui était canadien d'origine hongroise, ne voulait pas que je filme une scène où l'on voit créer le feu, qui est le sens du film, de quelqu'un qui ne sait pas que le feu peut se créer par l'homme. Il me disait « Why do you want to show it? There is no sex and no violence. » Pas de sexe, pas de violence. À quoi bon se tourner la scène ? Et vous avez effectivement aujourd'hui, il est très difficile de faire un film sans meurtre, sans hémoglobine. Ces films-là deviennent une rareté parce que les jeux vidéo ont rendu la mort complètement abstraite. La mort est d'un clic. Elle est comme ceux qui conduisent les drones. On est dans une maison climatisée avec une bière fraîche. On appuie sur un bouton, ça tue un village. Bon, c'est abstrait. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est tellement devenu une norme qu'il est même quasiment impensable. Je suis en train de penser que dans mon prochain film, si, il y a quand même un peu de violence, ce sont des loups qui sont violents. Mais si vous voulez, ça devient des exceptions. Les films où on n'a pas des armes à feu tout le temps ne se produisent plus car les gens ne veulent plus les voir. C'est un exutoire un petit peu comme le football qui figure une sorte de guerre entre deux clans. Je crois que c'est enraciné dans les tripes de l'homme.
Boiteux.
Oui, je voudrais aussi poser une question d'usager qui concerne plutôt le montage. Autrefois, on comprenait tout ce qui passait dans les films. Maintenant, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout parce que ce sont des séquences courtes. On a l'impression qu'on a massacré au montage le travail de l'auteur. Alors pourquoi? Alors on m'a dit, la première, c'est que dans la vie, on ne comprend pas tout non plus. Alors après tout, pourquoi on comprend mieux dans le cinéma que dans la vie? C'est une réponse qui n'est pas totalement satisfaisante. La deuxième, on m'a dit, mais maintenant, le spectateur moyen, il a été gosse, il a vu la télé, il n'a vu que des pubs. Ils sont habitués donc à des séquences extrêmement courtes. Et on est obligé de faire des séances courtes. Avant, on faisait des séquences beaucoup plus longues pour des films intelligibles. Alors, est-ce que c'est ça la réponse? Y a-t-il d'autres?
Écoutez, votre question est tout à fait juste. J'ai vu moi-même l'évolution invraisemblable de la narration cinématographique. Autrefois, vous ne pouviez pas expliquer à un spectateur que vous me parliez si vous ne me montriez pas. Et donc, il fallait faire un mouvement, parce que c'était comme le théâtre. On faisait bouger la scène du théâtre. Et puis, est arrivée une chose fondamentale, c'est la télévision. Alors, la télévision n'est pas un lieu où vous êtes captif devant un écran, vous êtes chez vous. Il y a tout un tas de... Il y a le chien, l'épouse, les enfants, tout ça, qui viennent faire du bruit et vous distraire. C'est-à-dire que votre attention est moins forte et qu'il faut aussi tenir compte de la taille de l'écran. Autrefois, vous aviez un écran de la taille de cette tapisserie sous vos yeux, vous voyiez en même temps l'acteur, le décor, le paysage derrière la fenêtre. Sur un écran qui fait le centième de cette surface, vous êtes obligé de montrer successivement la personne qui parle, le lieu dans lequel il parle et le paysage derrière la fenêtre. Trois plans à la place d'un. Et du coup, les goûts se sont transformés. Et que quand vous laissez les plans trop longtemps, sachant que le public, lui, a considérablement évolué dans la lecture d'une image, très très vite, il voit qu'il y a une voiture qui arrive dans le lointain et la fille à droite qui plaît au type qui est à gauche. Ça demande 2 secondes d'écart. Et je vous parle en tant qu'ancien publicitaire, j'ai fait 500 films publicitaires et j'ai manié beaucoup les images courtes. Donc si vous voulez, la lisibilité de l'image venant de cette imposition de la télévision a complètement modifié le spectacle. Et alors, je vous parlais du fond et de la forme. Beaucoup de films aujourd'hui sont sur la forme. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui court, il y a le déclencheur d'une mine qui explose, il y a l'explosion de la mine, il y a un plan sur son bras de moins d'une seconde, un plan sur sa main qui atterrit dans une flaque de sang, son cerveau qui explose contre le mur de l'hôpital, et le tout en 5 secondes. Autrefois, vous auriez eu un plan de 20 à 30 secondes, en plan unique. Donc, si vous voulez, il y a une accélération du plaisir de la forme au détriment du fond. Si c'est pour dire « notre héros est mort en marchant sur une mine », vous n'êtes pas forcé de faire 50 plans. Aujourd'hui, en cinéma, si, parce que les gens pensent autrement que c'est du cinéma ringard à l'ancienne, où vous avez un plan fixe. Alors, il y a de très beaux films, comme le film d'Haneke qui s'appelle Amour, où vous avez encore des plans fixes qui durent très très longtemps, mais c'est un autre style de cinéma. Le cinéma populaire aujourd'hui, qui donc est influencé par la télévision et par le jeu vidéo. Regardez comment ça se passe, les jeux vidéo. Zing, pong, tchak, ping, ting, pong, tchak. Et nous, si on ne fait pas la même chose, mais les gens, ils s'ennuient, ils ronflent, ils s'endorment. Il y a besoin d'adrénaline. On appelle ça aux États-Unis adrenaline movies. Et aujourd'hui, 90% des films sont adrenaline movies parce qu'ils sont destinés prioritairement à des adolescents, à des garçons, à de jeunes adultes qui sont bouillonnants de testostérone et qui vont au cinéma pour cette excitation-là.
Jean-David Lévite.
Merci à Jean-Jacques Hano, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Vous partez en Chine pour un an, est-ce que vous avez une liberté totale garantie de faire ce que vous souhaitez?
Ah, c'est une question qui m'intéresse énormément parce que je vous rappelle que j'ai fait un film qui s'appelle « 7 ans au Tibet » donc, et j'ai été banni de Chine pendant très très longtemps. Lorsque des Chinois sont venus me proposer le plus grand succès littéraire depuis le livre rouge de Mao, j'étais tout à fait étonné, mon collaborateur Xavier aussi. On m'a dit, nous sommes des gens pragmatiques, on a besoin de vous, et venez, vous allez voir, on va être très gentils. Alors écoutez, les choses se passent d'une manière tellement idéale que je pense que ça ne va pas durer, parce que je suis un réaliste. J'ai l'impression qu'on me passe tous mes caprices. Alors, ce qui se passe derrière, c'est qu'il s'agit d'un livre très politique, avec un fort message écologique concernant la destruction de la steppe, donc du mal-vivre futur de l'air à Pékin, et de la nécessité d'agir, en particulier au plan du gouvernement. D'après mes amis chinois, les cinéastes chinois sont trop chinois pour traiter ce sujet brûlant. Et les Américains sont trop américains, donc suspectes, et me dit-on, on le verra bien, je serai la personne qui serait là pour véhiculer ce message. Je vous donne un exemple, et encore une fois, en espérant que les choses ne vont pas changer. Il y a une censure en Chine, ça s'appelle Film Bureau, le bureau de la censure. Normalement, c'est 6 mois d'attente. Je suis arrivé un jeudi avec mon scénario. Il a été lu le jeudi soir par le président du studio, qui m'a dit le lendemain, c'est bon, tu vas voir, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, maintenant, il faut passer la censure. Et mon coproducteur de Hong Kong m'avait dit, attention, c'est parfois 6 mois. On me dit, non, t'as rendez-vous demain. Alors demain, c'était samedi matin. Et puis finalement, le soir, on me dit, non, c'est pas la peine, on t'envoie un courrier. Le courrier, c'était une lettre que j'ai gardée, d'une page extrêmement courtoise, en me disant, allez-y, c'est très bien. J'attends des jours moins heureux. Mais pour l'instant, vous aviez pu en témoigner, je suis laissé complètement libre. Comme je l'ai été, je vous signale, aux États-Unis. J'ai quand même travaillé 8 ans à Hollywood dans une liberté absolue. Mais autrement, je me tire, moi, je m'en vais tout de suite, à moins qu'on me foute en prison, ça c'est autre chose. De toute façon, ça ne me fait pas de doute. Si on me met des bâtons dans les roues, je m'en vais. On verra si ça dure. J'en suis le premier étonné et je vis pour l'instant des jours extrêmement heureux en Chine, en ayant la chance de vivre à la fois en Mongolie et à Pékin. Et je remercie beaucoup votre confrère Sylvie Berman qui contribue à me rendre la vie heureuse, ainsi que l'ambassade de France et le conseiller culturel qui sont venus d'ailleurs régulièrement me rendre visite. Donc si vous voulez, c'est une situation tout à fait exceptionnelle. Mes confrères chinois évidemment se plaignent énormément de la censure qui paralyse énormément le cinéma chinois, qui devient sclérosé parce qu'ils ne peuvent jamais parler de problèmes qui les intéressent. Et c'est pour ça qu'on fait tellement de films sur les temps anciens, sur ça se passe au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Ça, ça marche. Mais du coup, c'est extrêmement barbant pour le public.
Cher confrère, je voudrais prolonger par 3 questions, c'est peut-être 2 de trop, des thèmes qui ont déjà été abordés directement ou indirectement plutôt. Le premier, c'est le thème des intermittents. Notre confrère Casanova a évoqué la question. Le régime des intermittents du spectacle, qui ne profite pas simplement au cinéma, mais à tous les spectacles, qui est un régime très onéreux, très avantageux pour les intermittents. Mais la question, est-ce que ce régime, qui est contesté par des institutions comme la Cour des comptes, peut encore durer tel qu'il est? Deuxième question, c'est les rapports entre le cinéma et la télévision. Vous avez souligné l'importance des quotas que la télévision doit consacrer au cinéma français. Est-ce que ça n'a pas une incidence sur la conception des films qui doivent passer à la télévision, sur leur format, sur leur conception? Et ma 3e question, elle est plus technique. Vous avez évoqué l'évolution technique. Vous êtes, je crois, le premier à avoir tourné un film en 3D, Guillaume et les ailes du courage. Alors, est-ce que ça change non seulement le regard du spectateur, mais est-ce que ça change la technique du réalisateur? Et est-ce que c'est une voie d'avenir pour le cinéma, non pas seulement français, mais le cinéma en général?
Alors, je vais commencer par une anecdote sur les intermittents. Lorsque j'ai tourné un film qui s'appelait Deux frères, un film avec des petits tigres, et nous avons terminé le tournage à Arpajon. Xavier avait pris un chauffeur de taxi qui venait me chercher le matin et qui me raccompagnait le soir entre Arpajon et mon domicile qui est tout proche d'ici. Quelques temps plus tard, je hèle un taxi, je tombe sur ce taxi-là. Oh, il me dit, ça c'est de la chance parce que, vous savez, je suis devenu intermittent du spectacle, donc je ne travaille que 4 mois par an. Et je passe mon temps à La Réunion, payé par les ACEDIC. Ah bon? J'ai dit, mais pourquoi? Bah, parce que je vous ai conduit, monsieur, et donc j'ai pu faire valoir que j'étais chauffeur dans le milieu du spectacle, donc je suis intermittent du spectacle. C'est un exemple extrême. Mais il est vrai qu'il y a énormément de triches, et le pire est que les sociétés de télévision d'État emploient les gens sur 2 ou 3 semaines, et ils leur disent, les 3 semaines d'après, tu viendras quand même, mais tu seras payé par les ACEDIC. C'est vrai, Xavier, ça?
Tout à fait. D'ailleurs, c'est depuis quelques années, le vrai scandale qui existe en France, c'est que ce soit les sociétés d'État. Le plus grand pourvoyeur d'intermittents du spectacle est Radio France. Ensuite, vous avez les chaînes de télévision qui appartiennent à l'État, dans lesquelles l'État est actionnaire. Donc c'est le vrai problème se pose plutôt là, plutôt que les sociétés de production de films qui, eux, ne prennent des intermittents que pour les besoins spécifiques à chaque fois et pas toute l'année.
Alors, pour le rapport cinéma-télévision, aujourd'hui, la plupart des films dits de cinéma français sont d'authentiques films de télévision. Donc, avec un casting de télévision, et d'où tout ce scandale aujourd'hui sur les stars trop payées, etc. Mais c'est le système qui l'impose. Il est beaucoup plus simple de convaincre un acteur célèbre de faire un film que d'écrire un bon scénario.
Donc, aujourd'hui, les chaînes veulent des acteurs populaires, ceux qu'on voit dans les talk shows, ceux qui participent au quiz, là, qui appuient sur des boutons. Bon. C'est ça, le noyau dur, le noyau fort. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, le cinéma français, par nécessité, devient un cinéma financé par la télévision. Si vous regardez les génériques, eh ben, vous voyez très bien. Il y a eu ce problème en Italie, d'ailleurs. Il était tout le temps marqué RAI présente. Mais alors, RAI présente, c'est quoi RAI? C'est la radio-télévision. Eh ben, en France, c'est la même chose. À partir du moment où vous n'avez pas des investisseurs qui se remboursent par le public de cinéma, ben, vous savez très bien que c'est toujours finalement le client qui paye. Et là, c'est le client, c'est du public de télévision, donc de l'audience de télévision et les annonceurs. Et alors, la troisième question que vous avez posée sur le 3D. Alors, j'ai effectivement été très tenté lorsque la société IMAX, spécialisée dans les immenses écrans, a décidé de faire un système en trois dimensions. J'ai tout de suite été voir leur démonstration, je suis allé à Toronto voir ces gens qui voulaient rien entendre, qui pensaient que c'était un système qui n'était destiné qu'aux documentaires. Pourquoi je me suis passionné là-dessus? Parce que c'est une tendance lourde du cinéma d'avoir toujours essayé de se rapprocher de l'expérience de la réalité. Le cinéma, dans l'esprit de Lumière, était une amélioration de la photographie. C'est de la photographie, mais animée. Vous vous souvenez sans doute que la stéréoscopie a été très à la mode dans les années du début du 19e, et que la couleur, ainsi que le son, qui ont toujours à chaque fois été très décriés par les spécialistes, mes grands confrères de l'époque, ont décidé que l'invention du son, c'était la fin du cinéma, que l'invention de la couleur, c'était la fin du cinéma, et que, évidemment, aujourd'hui, l'invention de la 3D, c'est la fin du cinéma. Alors, il y a un gros inconvénient sur la 3D, c'est le port obligatoire des lunettes. Tant qu'on n'a pas inventé un système d'hologramme qui vous permette en plus de bouger la tête en recevant l'information destinée à l'œil gauche de l'œil gauche et l'information de l'œil droit à l'œil droit, on est mal et on est obligé de porter ces lunettes embarrassantes. Pourquoi la 3D est aujourd'hui de nouveau un projet d'avenir? Pour la raison du piratage. C'est que aujourd'hui, si vous voulez voir un film dans sa version originale en 3D, il faut aller au cinéma. Et que ce jeune public dont je vous parlais ne s'y trompe pas. Ça vaut surtout pour les pays d'Asie. En vérité, la 3D connaît un déclin aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, parce que on a cru, comme à chaque fois qu'il y a une invention, qu'il suffisait d'en mettre plein la vue du spectateur, pas de lui raconter d'histoire. Il y a eu tellement de mauvais films en 3D que les gens se sont découragés. En revanche, la Chine aujourd'hui s'équipe à raison de 3 salles par jour, 365 jours par an, de salles nouvelles, parfaitement équipées, avec une 3D de très haute qualité. Ils ne choisissent pas les systèmes bon marché, ils choisissent le système le plus cher. Et la 3D connaît une vogue incroyable dans ce pays où tout est piraté. Donc les gens préfèrent payer 10 dollars, car la place de cinéma aujourd'hui est aussi chère aux États-Unis qu'en Chine, mais ils préfèrent ça que de voir les films sur leur écran de téléphone. Donc si vous voulez, cet acquis technologique préserve un certain cinéma. Et j'avais refusé de faire mes deux précédents films en 3D pour la raison que j'avais évoquée de vulgarisation du produit. Or là maintenant, ce nouveau film, je le fais en 3D, car il y a aussi un autre phénomène. Toutes les télévisions à écran large aujourd'hui, si vous allez chez n'importe quel distributeur, genre Darty ou But, à partir d'une certaine taille d'écran, on vous vend les lunettes 3D avec. Et je pense que dans les années à venir, beaucoup de gens souhaiteront voir quelques films, pas tous, parce que c'est fatigant, mais souhaiteront voir quelques films en 3D. Il y a aujourd'hui un exemple qui est très réussi, l'histoire de Pi, qui est un film en 3D qui n'est pas de la 3D dérangeante. Ce qu'on fait beaucoup, beaucoup de metteurs en scène, c'est de surutiliser la 3D, c'est-à-dire en vous envoyant des trucs à la figure sans arrêt. Mais ça, dans la vie quotidienne, on ne reçoit pas des objets. Et c'est forcément très fatigant parce qu'à chaque fois, vous devez changer d'accommodation et de convergence. Et ça donne mal à la tête. Mais dans un film très bien fait, au point de vue d'ailleurs, comme Histoire de Pi, vous avez une 3D calme, plaisante et qui enrichit le plaisir du cinéma.
De la Rossière.
J'adhère entièrement à ce qu'a dit M. Casanova sur le caractère anti-économique de l'aide par avance sur recette. D'ailleurs, c'est un oxymore, avance sur recette. Il n'y a pas de recette. Ce qui serait normal dans un pays démocratique, ce serait de faire en sorte que les subventions soient remboursables, peut-être pas complètement, mais remboursables en cas d'échec. Et on peut mesurer l'échec, ça va de zéro entrée à l'infini, Et on peut arrêter le curseur de telle manière qu'on ne passe pas à une aide qui est totalement bénéficiaire du succès peut-être facile, mais on garde un élément de succès inhérent à l'obtention de la subvention. Et donc, il faut pénaliser dans une certaine mesure l'échec. Ce que je dis là a déjà été fait dans d'autres domaines. Ce n'est pas une idée absurde, mais c'est une idée dérangeante pour le petit groupe de gens qui pillent la ressource publique dans les conditions qui ont été indiquées. La deuxième chose, c'est une question plus personnelle que j'adresse à M. Hanot. Il se trouve que j'ai vu pratiquement tous vos films et que, sans vous faire de flatterie, je les ai tous aimés. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Vous avez fait cette carrière avec succès, quelquefois avec moins de succès, mais vous avez fait cette carrière sans vous embarrasser de ni de l'esprit de chapelle qui paralyse notre système de financement du cinéma, ni vous n'avez pas cédé à la violence pour la violence. Il y a des scènes très violentes dans certains de vos films, mais ce sont des éléments qui concourent au scénario et qui ne sont pas l'objet du scénario. Et vous avez porté le nom de la France, à travers des films aussi divers que « Nom de la Rose », « Stalingrad », « Le courage des ailes », enfin, vous avez porté le nom de la France, la culture française, notamment dans le cas de Saint-Exupéry, à l'étranger. Et la question que j'ai, qui est personnelle, c'est comment avez-vous réussi à faire cela, malgré les conditions qui sont quand même très difficiles, parce qu'on n'obtient pas facilement des financements. Et dans l'ensemble, vos films sont-ils des films chers? Voilà les points que je voulais toucher.
Alors, réponse à votre première question, punir l'échec est une idée totalement iconoclaste en France, puisque en France, on punit le succès, violemment. Et l'échec est noble. L'idéal, je me souviens, j'avais un scénariste qui me disait l'idéal pour un cinéaste, c'est de faire un échec noble. Mais oui, si vous voulez, je crois que le sentiment égalitariste qui habite la société française va très puissamment sur le coupage de la tête qui dépasse. C'était une expression de Francis Weber, qui est un auteur de films comiques, un homme de talent. Je crois que c'est une manière d'être et qui va me permettre d'enchaîner avec la deuxième. Si vous voulez, moi j'ai une carrière atypique parce que après avoir fait des études très classiques de latin, de grec, j'ai fait A', ensuite j'ai fait les deux écoles de cinéma, Louis Lumière et la Fémis. Je suis sorti très jeune et le hasard a fait que j'ai fait des films publicitaires. Alors ça, c'était très mal parce que je gagnais beaucoup de récompenses et j'étais vu par beaucoup de monde. Donc j'étais un vulgaire commerçant et j'ai été très tenu à l'écart par une partie de ceux qui écrivent dans les journaux, avec des critiques qui étaient généralement entre mauvaises et désastreuses. Et avec un rapport très ambigu dans mon métier, à tel point que, un peu fatigué, je suis allé vivre aux États-Unis. Donc, si vous voulez, pour répondre plus précisément à votre question, j'ai eu une très grande chance de penser que le cinéma était pour moi un grand privilège, mais que ce n'était pas ma ressource de vie. Ma sécurité sociale à moi, si vous voulez, c'était les films publicitaires. On m'en proposait 200 par an, j'en refusais donc 180. J'étais un peu gâté et je n'ai jamais pensé faire un film de cinéma pour le succès commercial. C'est un paradoxe total, mais je crois que, si vous voulez, cette indépendance d'esprit a fait que j'ai choisi des sujets qui ont fait fuir les producteurs. J'ai toujours eu beaucoup de mal à produire mes films, beaucoup de mal à convaincre les gens d'investir sur des sujets aussi improbables qu'un crime dans une abbaye pour un livre non écrit d'Aristote. Je vous jure que les gens me regardaient comme un fou. Produire La guerre du feu, et quand on me disait « mais quelle langue ils vont parler ?», ben, je disais « une langue que je vais inventer ».« Ah bon, et qui sont les acteurs ?» Je dis « ça n'a aucune importance, ils sont tellement maquillés que ce n'est pas important qu'il y a derrière ». Attendez, vous commencez comme ça, déjà, ça va nulle part. Et quand j'ai entrepris le film « L'ours », que donc a fait mon ami Xavier, on me disait « qui va jouer l'ours ?» Ben oui, si j'avais dit Depardieu, à l'époque, il était encore français, on m'aurait pris. Mais là, c'est des trucs complètement invraisemblables, improbables. Je vais vous raconter une anecdote qui va dans le sens de ce que vous posez. J'ai eu la chance de connaître et d'avoir comme producteur français Claude Berry. C'est Claude Berry qui m'avait présenté Xavier. Xavier était son assistant sur Ciao Pantin, sur la saga de Jean de Florette. Et après tout un tas de mouvements, le film devait être produit aux États-Unis. En tout cas, bon, Claude Berry décide de produire le film. Il me fait rentrer dans son bureau et je partais en tournage. Il me regarde dans les yeux, il me dit... Il appelait tout le monde chéri. « Chéri, est-ce que tu es sûr de réussir ?» Je le regarde bien droit dans les yeux, je lui dis « Non ». Il me regarde à son tour dans les yeux, il me dit « Alors d'accord, on y va ». Donc si vous voulez, je vous dis ça parce que c'est comme ça que j'ai conçu ma vie et là, je fais des paris. Là, je m'aventure dans un pari chinois. Oui, c'est difficile. dans une autre langue, dans un autre pays, avec des acteurs d'une autre culture que la mienne. Mais c'est l'aventure de la vie, du renouvellement, de la remise en question. Et je crois que c'est comme ça, quand on fait le choix déraisonnable de vivre de son métier d'artiste, je crois que c'est la seule manière de faire. Chercher une garantie, se dire « je vais faire quelque chose qui va marcher », mais c'est abominable. Ça ne peut pas marcher, puisqu'on est forcément dans la novation. Si vous faites quelque chose en disant « ah ben, je vais faire quelque chose qui a déjà été fait », ben oui, ben déjà, vous êtes sorti du lot. Donc, si vous voulez, c'est une chose où il faut prendre des risques considérables. C'est pour ça que beaucoup de très grands peintres, de très grands romanciers ou de très grands cinéastes n'ont pas eu des fins de vie toujours très agréables.
Alain Besançon.
Merci, Monsieur le Président. En écoutant ce passionnant exposé, vous avez prononcé le mot « aura », l'aura de la France diminuait. Et moi, je pensais à une conversation que j'ai eue il y a 3 jours avec Bernard de Fallois, qui est un éditeur, et il a vraiment remporté un très grand succès avec un roman qui est un roman policier supérieur, mais enfin qui se lit d'un bout à l'autre. Alors, c'est un roman écrit par un Suisse qui se passe en Amérique avec un héros américain. Mais il a quand même été acheté partout et en particulier à l'étranger. Et qu'est-ce que disaient les acheteurs étrangers? Ils disaient, mais bien sûr, votre roman n'a pas l'air un roman français, mais c'est pour nous un roman français. Et nous avons besoin d'un roman français. Parce que les romans que vous nous proposez sont des romans illisibles, qui ne racontent pas d'histoire, que c'est des bonnes femmes qui racontent leur premier inceste, leur premier viol, etc. Mais c'est pas vraiment une histoire. Alors nous avons acheté votre livre, qui se passe encore une fois en Amérique, avec un auteur suisse, par une espèce de nostalgie de la France. Et alors c'est exactement ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas? Qu'il y avait un goût pour la francité qui subsiste encore, bien qu'on attende toujours. Et je pense qu'il garde, si vous voulez, le souvenir lumineux des films de Carnet, de Renoir, de Clouzot, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait un peu, dans une certaine partie en tout cas, le grand succès de vos films, pas seulement en France, mais aussi, et terriblement, à l'étranger. C'est cette francité.
Merci, mais ce que je peux vous dire, c'est à quel point je suis ému, moi, de voir la puissance de l'idée de la France en Chine. Pour les raisons qui avaient été évoquées tout à l'heure, évidemment, le Parti communiste a beaucoup agi. Il était mieux d'importer des films français et surtout de la littérature française que de la littérature anglo-saxonne. Et l'auteur dont je tire le livre est un grand spécialiste de Hugo et de Stendhal. Et j'ai passé 3 semaines dans la même voiture à faire des repérages avec son copain qui était avec lui dans la yourte à l'époque de la Révolution culturelle. Le copain est peintre, il peint la Mongolie et il est un grand spécialiste de l'école de Barbizon. Donc nous avons parlé de Théodore Rousseau, nous avons parlé de Millet pendant des heures et des heures. Et c'est très touchant de voir à quel point, encore aujourd'hui, la littérature française, la culture française, alors évidemment aussi la Révolution française, toutes ces idées-là sont encore très puissantes. Et je dois vous avouer qu'une partie de mon espérance, et de mon combat d'ailleurs, serait de rapprocher ces deux grandes nations, la Chine est en demande de France. Pourquoi ? Parce que la France n'est pas un pays qui fait peur. Et la France est un pays qui apporte des solutions différentes. La tension entre les États-Unis et la Chine est grande. Et la Chine cherche à se diversifier, surtout au plan culturel. J'espère pouvoir y contribuer.
Yvon Gattaz.
Oui, tout d'abord une petite remarque concernant les intermittents du spectacle. Ça va vous abuser. Il y a bien longtemps, je venais d'être élu patron des patrons, depuis quelques semaines. Et puis le président de la commission sociale vient me voir en me disant « J'ai la demande d'un grand acteur, très connu à l'époque, je ne dirais pas le nom, parce que je crois qu'il est encore vivant, qui vient de me faire la démonstration suivante. Je travaille pendant 6 mois pour faire un film, je gagne beaucoup, beaucoup d'argent, et après je ne travaille pas pendant 6 mois. Je me considère donc comme au chômage. Alors j'aimerais avoir des indemnités en relation avec mes appointements des 6 mois précédents, qui étaient très élevés. C'était une nouveauté extraordinaire. On n'employait pas encore le mot d'intermittent du spectacle. Alors on a été estomaqué par cette demande, surtout venant de cette personnalité. J'ai réuni la commission qui, à l'unanimité, a dit il n'en est pas question. Et on a fait comprendre qu'il avait un travail saisonnier, qui était suffisamment rémunérateur, qu'il avait bien de la chance de pouvoir travailler que 6 mois sur 12. Ce qui n'était pas notre cas à nous, chefs d'entreprise. Voilà. J'en termine, puis après, malheureusement, nous avons perdu la partie parce que ça s'est incrusté. Au lieu d'attaquer par les salaires élevés, comme ils l'avaient fait de mon temps, ils ont attaqué par les techniciens. Comme vous le savez, on a donné le nom d'intermittent du spectacle, et puis c'est monté, ça s'est institutionnalisé, vous connaissez la suite. Alors maintenant, je passe à ma question. Alors, cher Jean-Jacques Haneau, vous avez devant vous la seule personne, etc., qui ne va jamais, jamais, jamais au cinéma. Alors je vais vous poser une question, une devinette. Pourquoi je ne vais jamais au cinéma? Premièrement, est-ce que je suis atteint de claustrophobie aiguë? Ça pourrait être cette question. Est-ce que c'est le bruit d'entrée qui me décourage? Est-ce que c'est la chaleur de la salle? Est-ce que c'est l'odeur de patchouli de la voisine? Est-ce que c'est le temps du film qui est minimum de 90 minutes et qui n'est pas compatible avec mon emploi du temps? Eh bien non, c'est aucune de ces questions-là. Eh bien, je fais partie de cette catégorie qu'on appelle les PME. Les PME, c'est les pauvres malentendants. Et vous savez que les spécialistes de l'audition ont cette phrase maintenant, c'est ceux dont l'ouïe commence à dire non. Alors cette catégorie des pauvres malentendants, nous sommes les plus malheureux de la Terre, mais tout le monde s'en fiche. Quand on est aveugle, ça fait pleurer, quand on est sourd, ça fait rire, n'est-ce pas ? Alors nous sommes tous plus ou moins appareillés, si bien qu'on a une vie quasiment normale, mais pas tout à fait normale. Nous ne pouvons pas entendre l'audiovisuel ou de l'audio qui mélange la musique et la parole. Si nous entendons des paroles sur un fond sonore, nous ne comprenons pas un mot de ce qui est dit. Mais pas un mot. Ça paraît stupide. Alors, j'ai posé la question 200 fois à grands spécialistes. Ils m'ont démontré que la fréquence du son, de la musique, étant beaucoup plus large que celle de la parole, qui est relativement étroite, la musique couvre la parole et nous, non, rien. Alors, ça paraît surprenant. Ne faites pas d'efforts. Mais non, c'est tout à fait vrai. Donc, j'ai écrit 20 fois au président de la CSA pour que, dans les titres de la télévision et du journal télévisé, on fasse des petits jingles entre les titres. Ce qu'ils ont fait, ils m'ont suivi pendant quelques années, puis vous avez vu qu'ils ont recommencé maintenant sur TF1. Ils remettent du tambour sur les titres. Je suis obligé de changer de chaîne. Je ne peux plus écouter TF1. Je suis obligé de passer sur Antenne 2 à cause du tambour. Je fais appel à votre science, mais est-ce que les pauvres malentendants ont un avenir possible?
Oui, et vous pouvez vous réjouir, puisque les aveugles sont gays, me dites-vous. Il y a les DVD que nous faisons actuellement, surtout dans le système Blu-ray. Nous faisons en sorte qu'il y ait une audiodescription pour les malvoyants, et il y a des sous-titres en français pour les malentendants. Donc, il est même parfois, je pense, alors là peut-être Xavier va répondre, en tout cas, lorsque vous achetez des DVD, vous pouvez regarder s'il y a le sous-titre qui se pratique de plus en plus dans les versions américaines. Aux États-Unis, c'est quasiment obligatoire.
Ah bon ?
Mais oui, donc vous avez le texte réécrit, c'est-à-dire une très bonne manière pour les jeunes Français d'apprendre l'anglais, c'est d'avoir les DVD originaux venant des États-Unis parce que vous avez le texte. Et je viens de faire l'ours, je viens de le refaire pour malvoyants et malentendants, et je m'attaque au nom de la rose demain. Alors, je crois qu'il y a des expériences de cinéma où il y a des sous-titres qui défilent comme à l'opéra. Vous savez, avec une bande électronique où vous avez des sous-titrages. Mais ça, il faut se renseigner sur quelle salle. Je veux vous dire, c'est pas par amitié, c'est qu'une grande partie du public souffre de ce problème, et donc c'est une niche commerciale extrêmement juteuse.
Nous sommes 5 millions.
Eh bien, vous êtes 5 millions de consommateurs que mes distributeurs et mes producteurs voudraient allécher.
Yvon, votre problème est quasiment résolu. Vous allez pouvoir retourner au cinéma.
Je suis sauvé.
Marianne Bastide-Bruguet.
Alors, j'ai oublié le pronom quand même au milieu.
Sur votre aventure chinoise sur laquelle vous avez donné certains détails, j'aimerais connaître exactement le nom de l'auteur là, et le roman que vous allez mettre en film. Et d'autre part, je voudrais vous demander avec qui et qui est votre partenaire véritablement ? Est-ce que c'est à Pékin, le système de télévision ? Est-ce que c'est l'organe d'État du cinéma ? Et comment, à votre connaissance, vous avez arraché cela ? Par ailleurs, si vous avez des ennuis avec la censure pour détendre l'atmosphère, je peux vous signaler que je crois que la première représentation de cinéma en Chine a eu lieu en 1896. C'était le consul à Hong Kong, mais provisoirement Paul Claudel, qui a montré du cinéma à ce moment-là. Mais je ne sais pas ce qu'il a montré. Il y avait des Chinois. C'était pour le 14 juillet. Ça peut vous aider. Et vous bénéficiez certainement du fait, dont je ne sais pas combien de temps ça va durer, que dans les manuels scolaires chinois, même dans les manuels du primaire, nous avons la chance d'avoir la représentation du tableau de Delacroix, la liberté guidant les révolutionnaires français. Comme c'est une très belle femme et qu'elle est la liberté, elle garde un prestige extraordinaire. Mais je ne suis pas sûre que ça dure longtemps. Mes questions plus sérieuses portent sur les statistiques que vous avez données. Est-ce que cela comprend le cinéma indien et le cinéma égyptien, qui pendant longtemps étaient très importants, qui sont des cinémas qui ne s'exportent pas, Et est-ce que vous savez un peu comment fonctionnent ces cinémas aujourd'hui et s'ils sont aussi importants qu'ils l'ont été autrefois? Et enfin, j'aimerais que vous nous disiez un peu plus comment est nommée cette fameuse commission d'avance et cette oligarchie qui fait et qui plombe au fond la valeur artistique réelle du cinéma français. Est-ce qu'elle se renouvelle? Est-ce que, au fond, c'est un groupe de gens qui se cooptent? Ou est-ce qu'il y a quand même un contrôle de l'État ou d'organisme quelconque sur elle?
Alors, je réponds à vos différentes questions. L'auteur du roman s'appelle Jiang Rong, c'est un nom d'emprunt. Ce monsieur raconte une histoire qu'il a vécue lui-même en 1967, lorsqu'il a été jeune instruit, envoyé en Mongolie. Il a fait ensuite de la tôle, puisqu'il a été chopé sur la Tiananmen. Et le fait que son roman soit passé à travers les mailles de la censure est un oubli. La censure n'a pas pu se rattraper après parce qu'il était trop tard. Le roman était un gros succès. La compagnie avec laquelle nous travaillons s'appelle China Film Group. C'est l'immense compagnie qui est la plus grosse compagnie de cinéma du monde aujourd'hui, qui possède 6500 salles aujourd'hui, mais enfin de l'année prochaine, ça sera 8000. Et je suis en rapport direct avec le président et le vice-président qui sont venus me chercher. Alors, pourquoi j'ai, comme vous le dites, arraché le projet? C'est en fait que j'ai appris, en allant là-bas, que tous mes films, à l'exception de L'Amant et de 7 ans au Tibet, ont fait partie des 10 films étrangers projetés chaque année. Donc j'ai eu cette chance exceptionnelle, et que, dès mon premier film, j'ai eu la chance bizarre d'être étudié dans les universités. Et que, du coup, le public chinois, en tout cas ceux qui décident ce que le public chinois voit, sans aucune intervention de ma part, car je n'ai jamais eu de rapport officiel avec la Chine, mais j'ai eu cette très grande surprise qui me rend la vie extrêmement agréable, car tout le monde a vu mes films là-bas. Ils n'ont pas le choix, il n'y en a que 10 par an à voir. Cette année, ils sont montés à 20 films. Je suis passé soit en tant que film américain, soit en tant que film européen, mais mes films ont été distribués, c'est pourquoi je bénéficie de ce statut particulier. Le film dont vous parlez, qui a été montré par Paul Claudel, était, je crois, un film montrant le couronnement de l'empereur du Japon, filmé par un opérateur Lumière. C'était une caméra Lumière. Donc c'est une actualité. Et maintenant, le cinéma indien, je le connais assez bien, ainsi que je travaille en Inde. J'ai failli faire 7 ans au Tibet en Inde. C'est un cinéma qui produit énormément de films. Il est difficile de le comparer au cinéma européen parce que la roupie, je ne sais pas quelle est la valeur de la roupie aujourd'hui. Il y a beaucoup de productions musicales. Les prix des places sont très peu chers. Les gens vont massivement au cinéma. En termes de nombre de films produits, c'est le plus grand cinéma du monde. En termes de films produits. C'est pour ça que j'ai toujours dit le cinéma français est le second cinéma occidental. Le cinéma égyptien, je connais pas mal aussi, puisque nous avons fait un casting en Égypte il n'y a pas longtemps, que j'ai travaillé avec des acteurs égyptiens. Le cinéma égyptien a été un très très grand cinéma au Moyen-Orient. Le problème, c'est que pour des raisons politiques et religieuses, le cinéma égyptien a beaucoup perdu. La télévision lui a fait beaucoup de mal et l'accent égyptien est moins bien accepté maintenant dans certains pays du Golfe, si bien que c'est la télévision libanaise qui remporte le morceau. Et le cinéma égyptien, si vous voulez, est en très grande perte de vitesse. Évidemment, la situation du pays est très dommageable au cinéma, ne serait-ce que pour faire venir des acteurs d'autres pays. Les visas sont très difficiles à obtenir. Je pourrais vous raconter des anecdotes infernales. J'avais un acteur égyptien, j'étais obligé de faire venir sa maman au Qatar. Enfin bon, gros souci pour ces cinémas-là, qui étaient des cinémas vigoureux et remarquables, y compris le cinéma syrien, bien entendu le cinéma iranien, qui reste, au plan qualitatif, un des plus grands cinémas du monde iranien.
Eh bien, merci beaucoup. Vous nous avez fait passer une après-midi absolument passionnante. Et merci de votre intervention extrêmement vivante et de la façon dont vous nous avez expliqué ce que le cinéma français dans le monde est. Ça reste, même si ça nous coûte un peu d'argent, un élément de fierté culturelle de la France. Alors, eh bien, on vous souhaite une très bonne année en Chine. Et puis, on se précipitera pour aller voir votre film chinois.
Je serai invité.
Français.
Merci.
Vous venez d'entendre Jean-Jacques Hano, cinéaste et membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui est venu prononcer une communication intitulée « Le cinéma français dans le monde » à l'Académie des sciences morales et politiques le 4 février 2013. Cette communication s'inscrit dans le thème de la France dans le monde, initié par le président de l'Académie pour 2013, Bertrand Collomb.